VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 17h à Conakry et 18h à Bangui. Trois personnes ont été décapitées dimanche dans l'extrême nord du Cameroun. Des attaques attribuées aux islamistes de Boko Haram, originaires du Nigeria, selon des sources sécuritaires, rapporte l'AFP. Samedi soir, un attentat suicide a fait au moins 20 morts et 79 blessés dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord. Il s'agissait du cinquième attentat suicide en deux semaines. Agathon Rwasa, leader de l'opposition burundaise, s'est présenté pour la première session de l'Assemblée nationale chargée d'étudier un règlement d'ordre intérieur. Ces élections ont été jugées ni consensuelles ni transparentes par tous les partis politiques de l'opposition, excepté ceux de la mouvance présidentielle qui n'ont pas eu le quorum requis pour faire partie du futur gouvernement de Pierre Nkurunziza, réélu sans surprise pour la troisième fois. De nombreux Burundais ainsi que des observateurs de la vie politique s'interrogent, mais Agathon Rwasa précise qu'il entre dans l'hémicycle de Kigob pour réclamer de nouvelles élections, puisque l'opposition ne reconnaît pas celles qui se sont tenues récemment dans le pays. La coalition Amizero y Abarundi a obtenu 30 sièges dans la nouvelle assemblée, bien que n'ayant pas participé aux élections communales et législatives. À Addis Abeba, le président Barack Obama s'est dit fier d'être le premier chef de l'exécutif américain à séjourner en Éthiopie. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn après leur consultation de ce mardi au palais présidentiel. Les discussions qui ont porté essentiellement sur le développement économique, la lutte contre le terrorisme et la démocratisation en Éthiopie. Également au programme de Barack Obama, une rencontre avec les dirigeants d'Afrique de l'Est sur la situation au Soudan du Sud. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
Le président Barack Obama devait s'entretenir lundi avec plusieurs dirigeants africains de la situation au Soudan du Sud, déchirée depuis plusieurs années par une sanglante guerre civile. L'autorité intergouvernementale sur le développement, un groupe de pays africains à l'origine de négociations entre les partisans du président Salva Kiir et ceux du dirigeant rebelle Riek Machar, a fixé une date butoir au 17 août pour que les deux camps acceptent une offre de paix définitive. En l'absence d'un accord, de nouvelles mesures devront être examinées. Parmi les mesures envisagées, un éventuel embargo sur les armes et des sanctions et restrictions de mouvement visant certaines personnes physiques. Les combats au Soudan du Sud ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 2,2 millions de personnes. Environ 40% de la population dépend de l'aide humanitaire.
En Côte d'Ivoire, troisième et ultime report du procès d'officiers ivoiriens fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo. Une nouvelle fois, l'avocat d'un des principaux prévenus ne s'est pas présenté. L'audience a été renvoyée à une semaine au plus tard, soit au 3 août. Le président du tribunal, Taïrou Dembélé, a souligné qu'il s'agissait d'un ultime renvoi. Le précédent report date du 21 juillet, lorsque l'avocat de l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le commandant Anselme Sekayapo, ne s'était pas présenté. Ce procès, ouvert le 9 juin, a été interrompu à maintes reprises. Les avocats de deux piliers de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo réclament des preuves ou, le cas échéant, l'exhumation du corps d'une victime tuée lors des troubles post-électoraux de 2010-2011 en vue d'une autopsie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré dimanche que Ankara était dans son droit de prendre des mesures liées à des cibles terroristes suite à l'offensive aérienne et aux combats d'artillerie des forces turques contre des militants du groupe État islamique en Syrie et des cibles rebelles kurdes en Irak. Dans la nuit de vendredi, les forces turques ont frappé une ville kurde du PKK dans le nord de l'Irak, marquant la première offensive contre le parti partie des travailleurs du Kurdistan, qui est interdit depuis l'accord de paix de 2013. La semaine dernière, des violences en Turquie ont été attribuées aux deux organisations rivales que sont le groupe État islamique et le mouvement kurde. À ce propos, Ankara a appelé à une réunion spéciale des États membres de l'OTAN mardi pour discuter des préoccupations de sécurité de la Turquie. Le PKK a déclaré que son accord de paix avec Ankara était caduque après les frappes aériennes. Dans le nord de l'Inde, des hommes armés ont attaqué un poste de police dans le Pendjab, près de la frontière avec le Pakistan, tuant au moins 6 personnes. Selon les autorités, les assaillants ont attaqué un hangar de bus ce lundi, avant l'attaque du poste de police de la ville de Gurdaspur. La presse locale rapporte qu'au moins 2 des victimes sont des civils. Les assaillants se sont barricadés dans les casernes et engagés dans une fusillade avec la police. D'autre part, la presse indienne rapporte que la police a découvert 5 bombes sur les voies ferrées de la région. Le ministre de l'Intérieur, Rajnath Singh, a déclaré aux journalistes avoir ordonné une sécurité accrue le long de la frontière avec le Pakistan en réponse à l'incident. Il n'y a aucune indication sur la responsabilité des attaques, mais la presse avance l'hypothèse d'une attaque perpétrée à partir du Cachemire voisin sous contrôle indien. Au Yémen, l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a frappé ce lundi par erreur des positions des forces pro-gouvernementales dans le sud du pays, faisant au moins 12 morts au premier jour d'une trêve de 5 jours destinée à faciliter l'aide humanitaire. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
L'un des chefs des forces gouvernementales a précisé à l'AFP que les avions de la coalition avaient effectué, entre autres, 2 raids à Jebel al-Zeytoun, tuant 12 combattants et blessant 30 autres. Les raids saoudiens ont notamment visé des positions aux environs de la base aérienne d'Al-Anad, tenue par les rebelles chiites Houthis, dans la province de Lajj. Ailleurs au Yémen, les frappes aériennes se sont arrêtées, mais des combats continuent sur le terrain à Taiz et dans les environs d'Aden, dans le sud du pays. La pause, initiée unilatéralement par la coalition, a commencé à minuit heure locale pour permettre de secourir les civils durement éprouvés par 4 mois de conflit. Les rebelles qui se sont emparés l'an passé d'une grande partie du pays, dont la capitale Sanaa, avec l'aide de militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, n'ont pas fait savoir s'ils acceptaient la trêve. Une précédente trêve de 5 jours à la mi-mai n'avait pas empêché la reprise de combat et une pause initiée par l'ONU à partir du 10 juillet ne s'était jamais matérialisée.
À Madrid, en Espagne, ce lundi est le premier jour de la réunion du comité antiterrorisme des Nations Unies. Plus de 200 experts se penchent aujourd'hui sur le phénomène des combattants étrangers qui rejoignent les mouvements djihadistes. Des mesures adéquates seront proposées demain aux pays membres. La Tunisie et le Maroc seraient les plus gros pourvoyeurs de jeunes recrues au groupe État islamique. Comment empêcher les jeunes de grossir les rangs du terrorisme ? Claire Morin-Gibourg a posé la question à Yann Saint-Pierre, spécialiste en lutte contre le terrorisme.
La solution, elle doit être polyvalente, elle doit être adaptable, elle doit inclure tous les acteurs, non seulement qui sont touchés, mais aussi qui peuvent jouer un rôle. On parle de citoyens normaux, de gens qui s'engagent pour la sécurité communautaire, pour le développement, pour l'éducation. On parle des acteurs policiers, de l'armée, des acteurs gouvernementaux, des politiciens, la communauté d'affaires doit jouer un grand rôle pour donner à ces jeunes qui semblent beaucoup plus attirés par les perspectives de vie, les offres que l'État islamique semble leur proposer, pour faire en sorte que rester à la maison, que les perspectives d'avenir soient de nouveau localisées. La force de l'État islamique, c'est qu'en ce moment, c'est une organisation qui a énormément de succès. C'est une organisation dont la portée est réellement mondiale. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très attirant. Elle joue énormément sur l'aspect romantique du terrorisme. C'est-à-dire qu'il offre aux jeunes une place, un sens à la vie. Il leur donne une importance qu'ils ont l'impression qui fait défaut chez eux, que ce soit en Tunisie, en Libye ou ailleurs. Et donc, c'est impératif que les communautés, les pays atteints doivent trouver une façon de contrer l'aspect romantique du terrorisme offert par l'État islamique.
Dans le nord de l'Afghanistan, 21 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans une fusillade dimanche soir lors d'un mariage dans la province de Baghlan. L'attaque a éclaté après l'assassinat d'un parent d'un responsable de la police provinciale. Pendant le mariage, a dit à Associated Press le colonel Gulistan Kassi, chef de la police de Dissala. Voilà.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.